Il est midi et demi à Paris, une heure de moins en temps universel.
RFI Midi, Alban Le Prince.
Et merci d'écouter RFI. Nous sommes ensemble pour deux heures pour décrypter l'actualité en Europe, en Afrique, mais aussi en Amérique. C'est parti pour RFI Midi jusqu'à 14h30, heure de Paris. Et dans cette émission, nous allons évidemment revenir sur les négociations de paix menées par les États-Unis et la Russie, bientôt 3 ans après le début de la guerre en Ukraine. Les Européens, eux, sont mis à l'écart, mais Emmanuel Macron veut peser dans les discussions. Il convoque une nouvelle réunion aujourd'hui des négociations suivies de très près en Ukraine, à Pokrovsk notamment, qui continue de résister.
On veut tous que la guerre se termine, mais la question c'est à quelles conditions ? Personne ne veut être la marionnette de quelqu'un. On entend beaucoup dans les informations que d'autres décideront pour nous. Ici, on considère que ça ne doit pas se passer comme ça. On ne peut pas mener des négociations avec notre agresseur dans notre dos.
Nous irons aussi en Allemagne, soirée de débat ce soir à 4 jours des élections législatives. Élection qu'Olaf Scholz, le chancelier, est quasiment sûr de perdre. Son parti arrive 3e dans les sondages. Des sondages qui donnent à l'AFD, l'extrême droite, des résultats jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Au sommaire de RFI Midi, également la suite des barrages retour de la Ligue des Champions et un gros club européen qui va forcément sortir ce soir aux portes des 8e de finale. Manchester City ou le Real Madrid. Ou après un début de saison plutôt compliqué, Kylian Mbappé enchaîne les bonnes performances.
Je savais que je pouvais changer les choses et les choses ont changé, donc je suis très heureux de pouvoir aider mon équipe comme je l'ai fait lors des derniers matchs. Je ne suis pas venu à Madrid pour mal jouer, j'ai changé et maintenant il faut continuer comme ça.
À 13h30, heure de Paris, Afrique Midi, présenté aujourd'hui par Arthur Ponchelet. Nous reviendrons également sur les raisons qui ont poussé les autorités haïtiennes à annuler le carnaval national. Il était prévu du 2 au 4 mars. L'inculpation de Jair Bolsonaro, aussi l'ancien président brésilien, accusé de tentative de coup d'État contre son successeur Lula en 2022. Et puis les conséquences de la suspension des fonds de l'USAID en Colombie pour les associations. Merci d'écouter RFI. Et bienvenue.
RFI Midi. L'Europe à midi.
L'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine est donc arrivé ce matin à Kiev. Il dit comprendre le besoin ukrainien de garanties de sécurité pour une paix durable. Une première visite depuis l'arrivée il y a bientôt un mois du président américain à la Maison Blanche. Et pendant que les discussions se poursuivent sur le terrain, une attaque de drone prive ce midi 160 000 habitants de chauffage et d'électricité à Odessa alors que le mercure ne dépasse pas 0 degré sur place. Et dans le secteur de Pokrovsk, à 600 km de là, l'armée russe continue de progresser malgré la résistance des troupes ukrainiennes qui ont quand même réussi à reprendre un village ces derniers jours. Malgré tout, la situation reste critique. Reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichit.
Les détonations sourdes des combats résonnent dans le village qui semble désert. Dans l'une des maisons, Nikita Ivanov, adjoint au commandant d'une unité mécanisée, a installé sa base arrière. Dans le séjour, transformé en bureau, un écran retransmet des images en direct du champ de bataille prises par des drones.
L'ennemi a mis une pression très forte à Pokrovsk avant la fin de l'année dernière. Maintenant, le tempo de leur offensive s'est un peu ralenti, mais ils restent très actifs et ils sont encore plus actifs dans la région de Koursk, parce que j'ai l'impression qu'ils tentent de nous chasser de là avant le début des négociations.
Ces pourparlers inquiètent Mikita et son ami Danilo, qui vient de rejoindre l'unité après avoir combattu dans la région russe de Koursk. Il redoute que l'armée ukrainienne se voit imposer un cessez-le-feu sans garantie de sécurité.
On veut tous que la guerre se termine, mais la question c'est à quelles conditions ? Personne ne veut être la marionnette de quelqu'un. On entend beaucoup dans les informations que d'autres décideront pour nous. Ici, on considère que ça ne doit pas se passer comme ça. On ne peut pas mener des négociations avec notre agresseur dans notre dos.
Loin des tractations qui ont lieu à des milliers de kilomètres de là, les militaires retournent à leur tâche. À quelques kilomètres du village, la plaine enneigée est striée de profondes tranchées. Des ouvriers y déploient des rouleaux de barbelés. Le Donbass continue de se fortifier. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Kramatorsk, RFI.
La visite de l'émissaire américain aujourd'hui à Kiev qui intervient au lendemain d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et américaine en Arabie Saoudite. Rencontre dénoncée par l'Ukraine que Donald Trump a accusé dans la foulée d'avoir démarré la guerre. Vous n'auriez jamais dû la commencer, a-t-il déclaré. Le président américain et son homologue russe censés se rencontrer bientôt, toujours sans les Européens, mis à l'écart des négociations de paix. Résultat, deux jours après son sommet organisé à Paris, Emmanuel Macron convoque aujourd'hui une nouvelle réunion avec des dirigeants européens et non-européens. Alors que peut-on attendre de ces discussions? Ulrich Bouna, analyste géopolitique et chercheur associé chez Open Diplomacy, auteur de La guerre hybride en Ukraine.
L'idée de la rencontre d'hier, c'était effectivement de réunir, on va dire, les plus grandes armées de l'OTAN en Europe pour essayer d'avancer, d'arriver sur des propositions concrètes, puisque là, effectivement, pour l'instant, des grands discours et des prises de position, on n'a pas de plan concret sur la table qui passerait par probablement par des investissements très lourds en termes de défense et aussi par la présence de troupes au sol en Ukraine. Et je pense que cette deuxième réunion vise un petit peu à répondre à certaines critiques. Je pense notamment à la critique des Tchèques et des Roumains qui sont pour le coup en première ligne pour les Roumains et qui sont aussi en première ligne côté tchèque pour la fourniture d'obus qu'ils achètent à l'étranger pour l'Ukraine. Et donc effectivement, ces pays-là avaient dit qu'ils trouvaient dommage d'avoir été un petit peu mis de côté. Donc je pense qu'il y a une volonté d'essayer de resserrer un peu les liens entre les différents pays soutiens de l'Ukraine et qui se trouvent dans l'OTAN. Mais l'objectif global reste le même, c'est-à-dire d'arriver à des propositions concrètes pour envoyer des troupes au sol en Ukraine et garantir surtout le soutien à l'Ukraine sur le long terme et le renforcement de la sécurité en Europe pour arriver avec des propositions concrètes à soumettre à Donald Trump pour lui dire, quel que soit le résultat des discussions que vous aurez avec Moscou, nous voici nos positions et on n'en demandera pas.
Des propos recueillis par Romain Le Maresquier.
RFI Midi. Berlin, 96.7 FM.
Dernière ligne droite avant les législatives en Allemagne, à 4 jours du scrutin. La campagne approche de sa fin. Ce soir, un deuxième débat télévisé affrontera le tenant du titre, le chancelier Olaf Scholz, à son challenger, le président du parti chrétien-démocrate Friedrich Merz, grand favori. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour.
Correspondant de RFI à Berlin. Pascal, que faut-il attendre de ce deuxième débat? Quels sont les pronostics à 4 jours du vote?
Alors, ce deuxième débat apportera peut-être des changements à la marge si l'un ou l'autre des deux candidats parvient à convaincre des indécis. Encore un tiers des électeurs, d'après les sondages, ne savent pas encore pour qui ils voteront dimanche. Mais depuis des semaines, d'un autre côté, ces mêmes sondages sont en quelque sorte gelés avec uniquement des changements à la marge. Les chrétiens démocrates emmenés par Friedrich Merz sont les grands favoris avec 30% des intentions de vote contre la moitié seulement des intentions de vote pour le parti social-démocrate du chancelier. Les espoirs de Olaf Scholz d'une remontée dans la dernière ligne droite, comme en 2021, sont restés jusqu'à présent lettre morte. Sa popularité est trop importante. L'inconnu principal de dimanche soir concernera surtout les coalitions potentielles. Les chrétiens démocrates auront besoin d'alliés. Les sociaux-démocrates sont les favoris, mais sans Scholz, sans doute. Mais cela suffira-t-il arithmétiquement? C'est la grande question. Pas sûr si trois petits partis parviennent à franchir la barre des 5% et sont représentés au sein du prochain Bundestag.
Alors, depuis plusieurs semaines, Pascal, un thème s'est imposé dans cette campagne. L'immigration, comment peut-on l'expliquer?
Bien, en raison des diverses attaques qui ont été commises par des migrants ces dernières semaines, celle à la voiture Bélier d'abord contre le marché de Noël de Magdebourg avant les fêtes, la semaine dernière à Munich contre des manifestants, et puis une attaque au couteau a eu lieu à Aschaffenburg, également en Bavière. Ces trois attaques ont secoué l'Allemagne, de vifs débats ont ensuite été lancés au sein de la classe politique, chacun y va de ses propositions. L'alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite, en deuxième position dans les sondages, avec actuellement 20% des intentions de vote, a dénoncé chaque jour le laxisme des responsables au pouvoir. L'AFD parle dans son programme désormais de remigration pour renvoyer massivement les étrangers. Le chancelier Scholz a beau répéter quotidiennement que le nombre de nouveaux arrivants a baissé sensiblement l'an dernier, que son gouvernement a plus expulsé de migrants en situation irrégulière et qu'il a durci la législation, eh bien le chef du gouvernement a du mal à convaincre. Les chrétiens démocrates, favoris des sondages encore une fois, ont fait des proposition ferme pour plus ou moins refouler tout étranger sans papiers légaux qui se présenterait aux frontières allemandes.
Et cette stratégie des chrétiens démocrates a provoqué de vives critiques. Pourquoi ?
Bien parce que le président de la CDU, Friedrich Merz, a fait adopter fin janvier une motion anti-immigration au Bundestag avec les voix de l'AfD. Un tabou était donc brisé, du jamais vu depuis la guerre. Le candidat à la chancellerie se défendait de la façon suivante. Friedrich Merz.
Pascal Thibault, donc oui. Après ce vote non contraignant pour le gouvernement, les députés AfD dans l'hémicycle, ils ont exulté.
Effectivement, c'était une scène qui a marqué les esprits. Après l'adoption de cette motion, avec encore une fois les voix de l'AfD aux côtés, pas seulement, mais aussi aux côtés des voix chrétiens-démocrates, et bien on a vu des députés AfD dans l'hémicycle au Bundestag exulter. La candidate à la chancellerie du parti d'extrême droite, Alice Weidel, déclarait « c'est une victoire de la démocratie, c'est bien sûr une victoire de l'AfD ». Cette stratégie de la CDU a suscité de nombreuses critiques. Encore une fois, des centaines de milliers d'Allemands sont descendus dans les rue ensuite pour la dénoncer. Olaf Scholz a mis en cause la parole de Friedrich Merz en parlant d'une faute impardonnable, en se demandant si à l'avenir, eh bien, ce tabou ne serait pas à nouveau brisé. Friedrich Merz répète, lui, que toute alliance en bonne et due forme, cette fois une coalition avec l'AfD, était catégoriquement exclu, l'a répété dimanche soir en face de son adversaire de l'AfD. Ce qu'on peut dire, c'est que ces polémiques, à l'arrivée, n'ont eu aucune conséquence majeure sur les sondages.
Merci beaucoup, Pascal Thibault. On le rappelle, correspondant de RFI à Berlin, en Allemagne. C'est une tradition avant chaque élection au Bundestag. Hein, 170 000 adolescents sont invités à voter comme s'ils avaient déjà l'âge de le faire, à 4 jours maintenant du scrutin. Et alors que les chrétiens démocrates font la course en tête dans les sondages, on le disait, suivi de l'AfD, puis des sociaux-démocrates d'Olaf Scholz et enfin des Verts en quatrième position, eh bien le parti écologiste devient premier parti chez les jeunes. Surprenant dans cette campagne, on le disait, très marquée par la question de l'immigration après ces attaques perpétrées notamment par des Afghans et la crise économique qui menace les finances du pays. C'est le reportage pour RFI de Delphine Herbollier.
L'ambiance est lourde en Allemagne, comme rarement ces dernières années. Dans la campagne électorale en cours, on ne parle que d'immigration, d'insécurité, de crise économique et de montée des extrêmes. Anna a 25 ans et comme des dizaines de milliers de personnes depuis des semaines, elle manifestait récemment contre la montée de l'extrême droite. Le parti alternatif pour l'Allemagne, l'AfD, est donné deuxième dans les intentions de vote.
C'est un vrai danger pour notre pays. Au moins 20% de la population supporte les nazis et c'est dangereux là, ça me fait peur.
Cette berlinoise le reconnaît aussi, elle craint pour le modèle social de son pays. L'Allemagne reste la troisième économie du monde, mais depuis la guerre en Ukraine, elle peine à sortir de l'impasse. Elle redevient ce que certains appellent l'homme malade de l'Europe. Cette jeune femme qui se dit de gauche ne voit pas d'avenir très brillant pour elle et ses proches.
Tout le monde a peur d'être pauvre, de ne pas pouvoir payer l'appartement, la nourriture, tout ça. J'espère que pour moi, je suis vieille, que je vais avoir une retraite, mais je suis pas sûre.
Anna n'est pas un cas particulier. Comme elle, 3 Allemands sur 4 disent regarder l'avenir avec angoisse. Et si les jeunes sont moins pessimistes, ils n'ont jamais eu le moral aussi bas. D'après une étude réalisée l'an dernier, la moitié des 15-29 ans pensent que la situation économique va se dégrader. À l'époque de cette enquête, ils plaçaient l'inflation, la guerre, la hausse des loyers parmi leurs premières craintes, ainsi que la peur du changement climatique. Félix Mühlmann a 24 ans, nous le rencontrons dans un meeting électoral du Parti social-démocrate, celui du chancelier Olaf Scholz. Cet étudiant en droit n'est pas vraiment convaincu. Où est passé le thème du climat ? Il s'interroge.
J'ai vraiment le sentiment que ce thème ne trouve pas sa place dans la campagne, car il est relayé très loin derrière ce que la droite et l'extrême droite mettent en avant, comme l'immigration. Or, si l'on ne fait rien contre le changement climatique, il y aura toujours plus de réfugiés. Moi, j'ai peur qu'à l'avenir, on lutte pour l'eau, pour les zones encore habitables. Et alors là, les conflits commenceront vraiment.
Économie, immigration, ces doutes et angoisses sont particulièrement frappantes auprès des jeunes qui se disent proches de l'extrême droite. Dans un meeting électoral de l'AfD, nous rencontrons nom David Herr. Cet étudiant en informatique a 22 ans, il est engagé auprès de ce parti depuis des années déjà. Il n'a pas peur pour son avenir professionnel, mais il regrette l'Allemagne de ses parents.
Ça va de pire en pire. Les gens le disent, ils veulent l'Allemagne d'avant. Et les jeunes sont les plus touchés. Qui a le plus souffert du corona ? Les jeunes. Avant, on allait à l'école, tout allait bien. Et maintenant, il y a de la moisissure sur tous les murs des écoles. Les enseignants ne sont plus formés comme avant. En plus, tout devient plus cher. Et d'un autre côté, la culture familiale faiblit et il arrive toujours plus d'étrangers. La question migratoire par-dessus. Tout cela pèse énormément sur les jeunes.
Comme David, de plus en plus de jeunes se laissent attirer par ce parti d'extrême droite. Lors des élections européennes de juin dernier, l'AfD est arrivée en tête des votes chez les 18-24 ans. Une première qui pourrait se renouveler lors de ces législatives, notamment grâce à la forte présence de l'AfD sur les médias sociaux. Ce parti est le premier à avoir visé les jeunes sur TikTok, par exemple. Pour nous parler de ses peurs, nous joignons Rüdiger Maas. Il dirige un institut de recherche intergénérationnel à Augsbourg, en Bavière. Pour lui, les jeunes sont confrontés à un monde en plein bouleversement entre la guerre en Ukraine, le défi économique, mais aussi les transformations liées au numérique et à l'intelligence artificielle.
Pendant longtemps, tout allait bien pour l'Allemagne. La sécurité a toujours été assurée. Mais aujourd'hui, avec la numérisation, l'intelligence artificielle, la peur que l'on ressent actuellement dans le pays augmente et elle est très handicapante. Elle explique en partie la montée des extrêmes en Allemagne. Et on remarque aussi que les jeunes sont très vulnérables, ils sont très anxieux par rapport à ces thèmes. C'est contraire aux idées reçues. Les jeunes prennent habituellement des risques. Or, là, on les voit menés par leurs émotions et leurs peurs.
Dans ce contexte, l'enjeu pour les divers partis politiques sera certainement d'offrir des réponses crédibles et rassurantes à des jeunes sceptiques et en plein doute. Un défi de taille.
Le reportage en Allemagne de Delphine Nerbollier. RFI Midi. Vous connaissez cette petite musique entre mille, hein. En football, suite des barrages, retour de la Ligue des Champions aujourd'hui, avec 4 matchs au programme, notamment le choc entre le Real Madrid et Manchester City, une semaine après la victoire des partenaires de Kylian Mbappé à l'Etihad Stadium, 3-2, match qui aura lieu dans la capitale espagnole. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Alban.
Vous allez commenter ce match sur RFI Madrid qui se prépare à une affiche de gala.
Oui, c'est un classique de la Ligue des Champions désormais entre les deux derniers vainqueurs de cette Ligue des Champions. Deux équipes qui se croisent systématiquement depuis 5 ans et souvent ça fait des étincelles. On l'a vu d'ailleurs au match aller avec cette victoire arrachée, vous l'avez dit, 3-2 par le Real en toute fin de rencontre à Madrid. On est donc impatient de pouvoir assister à une grande soirée comme le Real les aime, à couteau tiré face à un club de Manchester City qui traverse une saison contrastée mais qui a tout de même des joueurs capables de faire la différence en un geste. On pense au Norvégien Erling Haaland qui avait marqué 2 fois à l'aller, même s'il est incertain pour cette rencontre. Il y a beaucoup de confiance autour de ce match, mais certains essayent de tempérer tout ça. L'entraîneur Carlo Ancelotti l'a dit hier en conférence de presse, rien n'est fait, il y a un petit avantage, mais finalement, si City marque, eh bien les compteurs sont remis à zéro. Message transmis aussi par Marca, le principal quotidien sportif espagnol qui a fait sa une avec Prohibido Fiarce. Ça veut dire en gros excès de confiance interdit. On veut éviter une victoire des Mancuniens ici à Madrid qui ferait tâche.
Bah oui, parce qu'une chose est sûre Cédric, c'est qu'une élimination serait vue comme une catastrophe pour le Real.
Oui Alban, au Real, plus qu'ailleurs, on ne plaisante pas.
Cédric de Oliveira, que l'on va tenter de retrouver dans un instant. La liaison est mauvaise. Real Madrid-Manchester City, que vous pourrez suivre évidemment en direct sur RFI dans une soirée spéciale Ligue des Champions. Coup d'envoi 20h, temps universel, mais prise d'antenne dès 19h40. Programme également PSG-Brest, PSV Eindhoven, Juventus-Turin. Cédric, on vous a retrouvé. On le disait, élimination qui sera vue comme une catastrophe à Madrid.
Oui, au Real plus qu'ailleurs, je suis là, on ne plaisante pas avec la Ligue des Champions, cette compétition qui est dans l'ADN du club. 15 fois vainqueur, un record, c'est plus du double que n'importe quelle autre équipe européenne. Ils en ont gagné 2 sur les 3 dernières éditions. Bref, on a l'habitude de gagner ici. Et puis avec Jude Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé qui est arrivé cet été, on ne comprendrait pas que le club soit éliminé à ce stade de la compétition. Peu importe que ce soit Manchester City en face, en cas de défaite, cela engendrerait beaucoup de changements à la Maison Blanche. C'est l'un des surnoms du club madrilène.
Alors, est-ce que les merengues vont accéder aux huitièmes de finale? Réponse ce soir face à Manchester City, on le disait. Coup d'envoi 20h, temps universel à suivre en direct sur RFI.
RFI Midi. Un monde de tech.
Imaginez un câble sous-marin de 50 000 km qui relie les 5 continents. C'est l'incroyable projet de la maison mère de Facebook et Instagram, Meta, baptisé Waterworth. Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Alban.
Son objectif, c'est d'apporter, je cite, une connectivité de pointe aux États-Unis, à l'Inde, au Brésil, à l'Afrique du Sud, mais aussi à d'autres régions. C'est en tout cas ce que promet Meta sur son blog officiel.
Oui, nous pensons à tort que nos mobiles, ordinateurs et autres machines informatiques connectées sont reliées les uns aux autres en passant par des connexions satellitaires, par des ondes hertziennes ou encore par du Wi-Fi, mais qu'elles soient du domaine grand public ou pour assurer les activités de n'importe quelle entreprise dans le monde, la quasi-totalité de nos communications électroniques, y compris nos échanges vocaux par mobile, dépendent à plus de 95% des câbles sous-marins. C'est donc sans surprise que la firme américaine Meta est bien décidée d'investir massivement dans ce secteur éminemment stratégique en annonçant la mise en chantier de son projet dénommé Waterworth. Le coût d'envoi des travaux de ce câble de plus de 50 000 km a été officialisé ce mardi. Il serpentera les fonds océaniques les plus profonds et certains de ses faisceaux optiques plongeront jusqu'à 7000 mètres sous le niveau des mers. L'objectif affiché par Meta est d'améliorer la connectivité mondiale, mais surtout de déployer les futures technologies de l'intelligence artificielle dite générative sur l'ensemble de ses réseaux sociaux.
Vous parlez d'un investissement massif. En effet, en novembre dernier, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient. Elles parlaient d'un projet estimé à 10 milliards de dollars.
Effectivement, Waterworth, c'est un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars qui ouvrira donc 3 nouveaux corridors océaniques, expliquent les responsables du projet au sein de Meta. Toutefois, l'installation d'un tel câble reliant les 5 continents ne sera pas un simple parcours de santé. Et afin de protéger sa future infrastructure critique des éboulements sous-marins, des tsunamis, mais aussi des ancres des bateaux, le groupe américain envisage de recourir à de nouvelles techniques d'enfouissement dans les zones à risque.
Des zones à risque, oui, parce que ces câbles, vous le disiez, sont soumis à des conditions extrêmes dans les fonds marins. Ils sont d'ailleurs régulièrement endommagés.
Et les catastrophes naturelles ou les arrachages accidentels ne sont pas les seules causes de rupture de fibres optiques. Les actes de sabotage se sont aussi multipliés ces dernières années, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec des destructions qui seraient imputables à Moscou en mer Baltique. Et ce n'est pas toutefois le premier projet sous-marin de Meta, qui possède déjà des parts dans 16 autres réseaux subaquatiques, dont Two Africa, qui apporte une connectivité haut débit au continent africain. Waterworth, en revanche, est le premier de ce type qui sera détenu à 100% par le groupe américain. Meta ou encore Google, qui a lancé un projet similaire, seront ainsi bientôt les seuls géants de la tech à disposer de câbles sous-marins privés pour acheminer à leur guise la quasi-totalité des communications numériques à travers les océans du monde.
Merci Dominique Dezonnet, à demain pour un prochain monde de tech.
RFI Midi.
RFI à Paris, 89 FM.
Et en ce mercredi, l'invité culture du jour nous emmène au cinéma, dans les coulisses du football d'aujourd'hui. Grande histoire de business à coups de millions, voire de milliards d'euros. On y suit Driss, un agent de joueur interprété par Jamel Debbouze, qui n'a qu'une semaine pour négocier le transfert d'un footballeur du PSG. Le film s'appelle Mercato, mais comme le dit le sous-titre, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Tristan Seguela, le réalisateur et l'invité de Sophie Torlotin.
Tristan Seguela, bonjour.
Bonjour.
Dans Mercato, votre nouveau long-métrage, on suit Driss, un agent de footballeur. Il a 7 jours exactement, la fin du Mercato, donc le marché, la vente et l'achat de joueurs professionnels par les grands clubs. 7 jours pour rassembler une énorme somme d'argent qu'il doit à des créanciers peu recommandables. Ce film, Tristan Seguela, c'est une manière de montrer tous les dessous du foot business.
Oui, exactement. C'est une manière d'emmener le spectateur dans l'arrière-cuisine du monde du foot, du milieu du foot. Les agents ont mauvaise réputation, surtout dans le football. On dit d'eux que c'est des espèces de parasites qui se nourrissent sur la bête, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, puisqu'ils existent, c'est de me mettre dans ses pas et de m'intéresser à un agent en particulier, donc Driss Berzan dans le film, qui a de gros ennuis. Et à partir de là, d'imaginer un récit tendu, un thriller qui va nous plonger dans la traversée du miroir du food business.
Tu nous dois 300K.
300 000 euros où ?
J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que moi tu dis m'a largué, plus personne ne me parle.
Driss, effectivement, il a des ennuis, il est seul, il peut pas compter sur sa force physique. Enfin, il est malingre, il est petit, il a un atout. C'est sa maîtrise du verbe.
Absolument, c'est ça l'atout maître de Driss. Et il se trouve que avoir la chance de voir Driss incarné par Jamel Debbouze, évidemment, c'est pas innocent. Jamel manie la langue comme aucun autre. Et c'est vrai que ce rôle-là lui va comme un gant.
C'est Jamel Debbouze qui a apporté l'idée de ce film ?
Oui, il avait envie depuis longtemps, je crois, de porter un film sur le foot, mais qu'il ne soit pas un film comme les autres. Qu'il soit un film qui ose dire aussi les travers du milieu, qui ose être vrai, qui ose être documenté, qui ose être très contemporain. Parce que lui a la chance de côtoyer des joueurs professionnels pratiquement depuis qu'il est né. Il a grandi avec Nicolas Anelka. Après, Zinedine Zidane, il a eu la chance de le côtoyer aussi. Et aujourd'hui, il est très proche de, par exemple, Kylian Mbappé. Ça lui donne une espèce de connaissance très profonde, très intime du milieu, qui lui a inspiré de la fiction.
Les agents, on est aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls, parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière.
On le disait, Driss, il a le sens de la répartie, bah, comme Jamel Debbouze. En même temps, est-ce que votre film Tristan Seguela est très écrit, ou est-ce qu'il a laissé la part à l'improvisation ?
Alors, le film est très écrit par deux scénaristes à qui je tiens à rendre hommage, Olivier Demangel et Thomas Finkielkraut, avec qui j'avais travaillé sur la série Tapis. Ça n'empêche que Jamel, j'ai laissé quand même cette espèce d'espace de liberté, de recréation parfois des dialogues, mais c'est pas tous les dialogues. Certains disent que on n'a jamais vu Jamel comme ça. Je peux difficilement dire le contraire au regard du reste de sa filmographie, même s'il n'a pas du tout servi que des rôles comiques. Mais paradoxalement, le Jamel que je connais, il n'est pas si éloigné que ça de Driss. Et s'est livré à ce personnage, peut-être comme jamais. Et ça provoque parfois une espèce de trouble que moi, je trouve assez formidable.
Tristan Seguela, merci.
Merci beaucoup.
Tristan Seguela, l'occasion de la sortie aujourd'hui au cinéma de Mercato, avec notamment Jamel Debbouze. Il est midi 56 à Paris, vous êtes sur RFI dans un peu plus d'une demi-heure, à midi et demi, temps universel Afrique midi. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Et au sommaire aujourd'hui,
on va évidemment faire un point complet sur la situation dans l'est de la RDC, alors que le M23 soutenu par le Rwanda continue son avancée. Hier, le groupe rebelle est entré dans Kamanyola, à une cinquantaine de kilomètres de Bukavu, le chef-lieu du Sud Kivu, tombé lui cette semaine. À partir de midi 30, temps universel, on va aussi parler de l'arrestation à l'aube ce matin d'Abdoul Sakho en Guinée, le leader des forces social est l'une des voix critiques du pouvoir. On est aussi au Mali pour évoquer le projet de nouvelles taxes qui continue de faire réagir. Et puis l'inquiétude de la mission de l'ONU pour le Soudan du Sud. Les combats ont repris cette semaine entre les forces fidèles au président et celles fidèles à l'opposition. On vous explique tout et on fait le point avec notre invité.
Merci Arthur Ponchelet. Afrique Midi, c'était à 13h30, heure de Paris, midi et demi, en temps universel. Avant le retour dans l'information dans moins de 3 minutes, sur RFI avec Florent Guignard de la musique, avec Joey Douette Filé. Il a enflammé il y a deux mois l'Accor Arena de Paris. On vous présente ce midi 4 campés.
Ça vient d'en crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. Ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, pay me. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons, alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons, alléluia. Da, da, da. Baby, je le t'alvini. Vini, vini, pas timide. Drive all Lamborghini.
dan dan dan. Chérie, nous sous ça, campé dan dan dan. Bamé les bamé les. Ah nan nan. Full BBL baby. Dan dan dan. Bamé les bamé les. Ah nan nan. Chérie, nous sous ça, campé dan dan dan. J'suis devant chanté. Capis a plus les condamnés. Je remercie des parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats.
Joé doit être filé avec 4 campés sur RFI, 4 campés, véritable tube. Hein. Madonna a même publié une vidéo d'elle en train de danser sur ce titre. Restez avec nous dans moins d'une minute. Le retour de l'information avec Florent Guignard.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradon.
À Dagana, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, le chant des femmes rythmait autrefois la vie quotidienne, en Wolof, Assania ou Pular. Conserver ces traditions orales, les frotter au rap, c'est la double ambition d'une association locale de sauvegarde et du rappeur Index Dulcuc.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradon, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.